à l'écoute des RFI en direct de Paris, il est 21h.
Adrien Delgrange.
19h en temps universel, nous sommes le 11 octobre et au sommaire de cette édition internationale, dans le sud du Liban, entre armée israélienne et Hezbollah, la force onusienne prise entre deux feux, deux casques bleus ont été visés aujourd'hui par des tirs israéliens, ils sont blessés, de nombreux pays s'indignent. Au sommaire de cette édition également, le prix Nobel de la paix qui a récompensé aujourd'hui l'organisation japonaise pour l'abolition des armes atomiques, Nihon Hidankyo. Paris, Rome, Berlin, le président ukrainien vient de boucler une tournée européenne. Volodymyr Zelensky espère obtenir la fin de la guerre contre la Russie l'année prochaine. Et puis enfin en France, un budget à peine dévoilé, une note déjà attendue. L'agence de notation américaine Fitch dévoile son diagnostic pour la France dans 2 heures. La France ne tolérera pas que l'armée israélienne vise à nouveau délibérément les casques bleus. Les mots du président français Emmanuel Macron jugent tout à fait inacceptable que les casques bleus de l'ONU soient visés par les forces armées israéliennes dans le sud du Liban. Et il prévient, la France ne tolérera pas de nouveaux tirs après ceux des derniers jours. Hier, 2 soldats indonésiens de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, ont été blessés. Aujourd'hui, ce sont 2 autres casques bleus de Sri Lanka qui ont été blessés. Par ailleurs, l'armée libanaise annonce la mort de 2 soldats dans une frappe israélienne aujourd'hui contre ses positions dans le sud du Liban. Ces incidents témoignent d'une multiplication des escarmouches entre l'armée israélienne et des acteurs qui ne sont pas directement impliqués dans la guerre en cours avec le Hezbollah. Pour RFI, Paul Ralifet est à Beyrouth.
Israël souhaite clairement modifier la mission des casques bleus de l'ONU et de l'armée libanaise dans le sud du Liban pour qu'elle passe du statut d'observateur passif à celui de force active, chargée de démanteler l'infrastructure militaire du Hezbollah et d'empêcher la présence de combattants du parti chiite au sud du fleuve Litani. Tant que ces 2 forces ne remplissent pas ce rôle, leur présence dans la zone frontalière est inutile et même encombrante aux yeux des Israéliens. À cause de leur déploiement, les milliers de casques bleus et de soldats libanais peuvent ralentir la progression de l'armée israélienne sur le terrain, l'obligeant à faire des détours et des contournements. Et même s'ils ne s'opposent pas par la force à l'avancée des troupes israéliennes, les casques bleus et les soldats libanais restent des témoins indésirables ou gênants. L'armée israélienne a multiplié ces derniers jours les points de contact avec le Hezbollah et a élargi ses zones d'opération en engageant des troupes supplémentaires. Elle ne prend plus la peine de ménager les forces qui peuvent se trouver sur son chemin, surtout si celles-ci n'ont plus aucune utilité dans le cadre des nouvelles réalités qui se dessinent sur le terrain. Paul Khalifeh, Beyrouth, RFI.
Cette autre guerre aux portes de l'Europe entre l'Ukraine et la Russie, l'armée russe revendique la conquête de 2 nouveaux villages dans l'est de l'Ukraine, de nouvelles avancées en pleine tournée européenne du président ukrainien. Le président ukrainien qui effectue des déplacements en Europe, des déplacements qui l'ont mené à Paris, à Rome. Volodymyr Zelensky était cet après-midi à Berlin pour une rencontre avec le chancelier Scholz. Et comme dans d'autres capitales, Volodymyr Zelensky voulait présenter son plan de paix et s'assurer du soutien de ses alliés. RFI Berlin, Pascal Thibault.
Volodymyr Zelensky espère aboutir l'an prochain à une fin de la guerre entre son pays et la Russie. C'est ce que le président ukrainien a déclaré au début de sa rencontre avec le chancelier Scholz. L'étape allemande de cette tournée européenne était également destinée à présenter le plan de paix élaboré par Kiev, mais aussi à renouveler les demandes régulières faites à l'Allemagne en faveur notamment de la livraison de missiles de longue portée, une mesure que rejette Olaf Scholz, craignant une escalade du conflit. Le chancelier a tenu à rassurer son hôte alors que les aides militaires bilatérales de l'Allemagne à l'Ukraine doivent baisser de moitié l'an prochain.
L'Ukraine peut compter sur notre soutien. Notre message à Poutine est clair. Une guerre d'usure ne fonctionnera pas. Notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas.
Olaf Scholz a annoncé une aide à court terme de 170 millions d'euros pour aider l'Ukraine à réparer des infrastructures endommagées. Le chancelier a aussi évoqué un paquet d'aides militaires supplémentaires d'1 400 000 euros cette année avec la Belgique, le Danemark et la Norvège. Cela s'ajoute à 600 millions déjà annoncés par l'Allemagne récemment. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Le prix Nobel de la paix attribué à une ONG japonaise anti-armes nucléaires. Hibakusha, comprenez ceux affectés par la bombe en japonais. L'ONG met en avant les témoignages de victimes des bombes nucléaires américaines lancées à la fin de la Seconde Guerre mondiale, notamment sur Nagasaki et Hiroshima. C'était en août 1945. Des témoignages contre la prolifération de ces armes, certes, mais la chercheuse spécialiste du Japon, Marianne Perrondoise, est étonnée de la remise de ce prix, alors que le Japon mène en réalité une politique pro-armes nucléaires.
J'ai été un peu surprise de cette mise en avant, tout en comprenant bien la portée du symbole. Bien sûr, le Japon a largement mis en avant sa situation d'État pacifiste. En même temps, quand on analyse les discours des cercles politiques japonais, lorsqu'on regarde la situation du Japon, qui est dans le cadre d'une alliance de sécurité avec les États-Unis et qui bénéficie de ce qu'on appelle le parapluie nucléaire américain, il y a quand même une certaine ambiguïté dans toutes ces postures. On peut s'interroger sur, au-delà du symbole, sur la réalité de la portée du message pacifiste, et en tout cas non nucléaire, au Japon.
La chercheuse Marianne Perrondoise au téléphone avec Théo Renaudon. A noter que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé les dirigeants mondiaux à faire preuve de clairvoyance et à éliminer les engins de mort que sont les armes nucléaires après la remise du Nobel de la paix à un groupe anti-armes atomiques. L'ouragan Milton, nous n'avons pas connu de pire scénario, mais nous avons été touchés, a déclaré aujourd'hui Ron DeSantis, gouverneur de Floride. L'ouragan a causé la mort d'au moins 16 personnes, environ 2,5 millions de foyers et d'entreprises restent à l'heure actuelle privés d'électricité. À noter également qu'une première estimation financière des dégâts vient d'être communiquée, 50 milliards de dollars annonce le président américain. Il est un petit peu plus de 15 heures à Fort-de-France. La situation reste tendue en Martinique. La piste de l'aéroport a été envahie par des manifestants, des avions déroutés. Il y a eu des pillages, des arrestations. Depuis maintenant plusieurs jours, l'île française des Caraïbes est le théâtre d'émeutes. En réaction à la flambée des prix sur les prix alimentaires, malgré l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin, la nuit dernière a encore connu de nombreuses violences. Et ce vendredi après-midi en Martinique, à 15h, heure locale, une table ronde doit avoir lieu entre des manifestants et des représentants de l'État pour trouver un accord sur les produits qui seraient concernés par une baisse de prix. L'actualité en France, c'est aussi le nouveau Premier ministre Michel Barnier qui a présenté en Conseil des ministres son budget pour l'année 2025. Alors comme prévu, le projet vise à économiser 60 milliards de dollars. Et pour y parvenir, il prévoit 40 milliards d'euros de baisse de dépenses, 20 milliards de recettes supplémentaires à travers des impôts ciblés sur les grandes entreprises et les ménages les plus aisés. Un budget 2025 en rupture avec les 7 dernières années, avec comme président Emmanuel Macron, et un chef de l'État qui se retranche désormais, Charlotte Urien-Thomaca, dans son domaine réservé, l'international et les soubresauts de la Terre.
Emmanuel Macron, silencieux pendant le Conseil des ministres, laissant surtout la parole au ministre de l'économie Laurent Saint-Martin et se gardant bien de donner son avis sur le budget selon un participant. Pourtant, entre hausse d'impôts et augmentation de taxes pour certaines entreprises, les fondamentaux du macronisme sont remis en cause dans ce budget présenté en Conseil des ministres. Mais non, le chef de l'État reste en retrait, explique son entourage. Oui, ses convictions économiques sont connues, mais on a changé d'époque, c'est un temps nouveau, rappelle même l'Élysée, référence ici aux élections législatives perdues par le parti présidentiel. Pourtant, le président espère quand même que le texte sera amendé par le Parlement et que les députés de son camp y apporteront des modifications substantielles et arriveront à faire entendre leur voix. Et qu'importe les frottements et la rugosité dans la majorité atypique entre macronistes et droite traditionnelle, assume un conseiller.
Enfin, une stèle honorant les journalistes tués dans l'exercice de leur métier a été dévoilée aujourd'hui au mémorial des reporters de Bayeux, dans l'ouest de la France, par Reporters sans frontières. Cette stèle comporte 57 noms, dont 26 Palestiniens tués en 2023 et 2024 en exerçant leur métier de journaliste. RFI, toujours à vos côtés pour vous informer. À Paris, il va être 21h10.